Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes.
Alors, bonsoir à tous. Donc, nous allons, dans cette séance, parler des supernovas et des trous noirs. Le plan de l'exposé, donc, ça va être évidemment les supernovas, surtout le détail de leur explosion, comment elles explosent, pourquoi, est-ce qu'on arrive à les faire exploser en ordinateur, les divers types de supernovas. On va voir que c'est complètement asymétrique, qu'on pourra peut-être détecter des ondes gravitationnelles. Les trous noirs de masse stellaire, donc ils sont surtout, on va voir comment ils sont distribués en masse, et ils sont surtout l'objet d'études grâce au binaire X. On voit que le trou noir accrète de la masse de son compagnon, et c'est ce qui fait le disque d'accrétion, et tous les événements énergiques X et gamma que l'on observe. Donc au cours de l'exposé, on parlera beaucoup de sursaut X, gamma ou radio et d'ondes gravitationnelles. Alors d'abord, la supernova la mieux connue, c'est celle qui a explosé en 1987 dans le nuage Magellan. C'était la première qu'on pouvait observer avec tous les instruments qu'on avait. On a la première détection des neutrinos dus à l'explosion ont été faites avec Kamiokande au Japon. La première détection des neutrinos, vous savez que dans l'énergie d'une supernova, toute l'énergie sort à 99% en neutrinos dans les quelques premières secondes. Donc ça a été détecté. C'est la mieux connue parce qu'elle est presque dans la Voie lactée. En fait, elle est en bordure de Voie lactée, 50 kiloparsec. Bon, ça fait quand même 150 000 années-lumière, mais c'est juste au bord de la Voie lactée. Donc c'est une supernova de type 2. Donc ça veut dire quoi type 2? C'est que dans son spectre, quand on regarde le spectre, il y a beaucoup d'hydrogène, de réhydrogène. Et c'est aussi une des premières où on connaissait le progéniteur. On avait l'étoile qui était là avant l'explosion de supernovae. Et c'était une supergéante bleue, sans dulique un numéro, de 20 masses solaires. Les astronomes en étaient surpris car ils pensaient que c'était des supergéantes rouges qui faisaient les supernovae. En fait, non, il y a beaucoup de supernovae, de supergéantes bleues. Alors, vous voyez la courbe de lumière, donc luminosité en fonction du temps. Ici, c'est en jour, mais on va jusqu'à 12 ans. Donc la première partie va très très vite, et puis même si tout se passe en quelques secondes, les neutrinos s'en vont, il y a une réaction nucléaire qui produit beaucoup d'éléments, et puis ensuite on a quand même la luminosité qui reste parce qu'on produit beaucoup d'éléments radioactifs, comme le cobalt, plusieurs sortes de cobalt radioactifs, le cobalt 57 par exemple, à une durée de vie de 0,7 années. La fin, là, est surtout due au titane 44, qui est radioactif avec une durée de vie de 63 ans. Donc ça permet de faire durer la luminosité, très basse évidemment, mais la faire tourner. En fait, dans ces effondrements des étoiles massives, supérieures à 8 masses solaires, il y a plusieurs façons d'exploser, en fait, selon la masse. Alors, on s'est aperçu que de 8 à 10 masses solaires, c'était surtout par capture d'électrons, on va voir. Et puis, mais ces masses-là ne sont pas assez grandes pour avoir juste la nucléosynthèse jusqu'au fer. Par contre, c'est le cas pour de 10 à 70 masses solaires. Alors là, on a un cœur de fer. Le fer ne peut plus, par les réactions nucléaires, faire d'autres éléments, parce que, comme on l'a vu déjà, c'est... les réactions sont endothermiques, il faut faire des bombardements de neutrons et ça vient avec un autre processus. Donc le cœur de fer va exploser, on va voir pourquoi. Et puis au-delà de 70 masses solaires, la masse va être tellement grande que les photons vont faire des paires électrons-positrons et on va éclater tout le système, il n'y aura plus aucun cœur qui va rester. Donc évidemment la forme de la nébuleuse qui sort va dépendre si l'étoile était binaire ou pas, la symétrie, l'environnement du milieu interstellaire. Les éjectas vont se projeter sur le milieu environnant, donc on aura des formes très bizarres. Alors la première supernova, c'est par capture d'électrons. Donc un des exemples est celle-ci. Alors vous voyez qu'on donne au numéro des supernovae l'année de détection, et puis après c'est A, B, C, D, et puis ensuite des lettres. Alors évidemment, on en connaît beaucoup de supernovae qui sont très loin, dans des galaxies proches quand même, 2146 par exemple. Et on a moins d'informations que pour la fameuse SN1987A qui est vraiment très proche. Donc celle-ci, on a sa courbe de lumière, on a la courbe de lumière de plusieurs d'ailleurs, et on voit qu'il y a une chute, juste après le plateau, là il y a une chute qui indique qu'il y a une très faible nickel 56 qui est radioactif et qui en général pour les supernovas plus massives permet de continuer un peu plus loin la luminosité. Donc ici, on n'a pas, on va pas jusqu'au fer, on a l'oxygène, le néon, le magnésium, et lorsque ces noyaux commencent à être concentrés, positifs, et qu'ils sont concentrés par les autres couches qui vont tomber sur le noyau, il va y avoir une acceptation d'électrons, une capture d'électrons sur les noyaux positifs, et c'est ça qui va faire exploser l'étoile. Alors pour les autres de 10 à 70, c'est le type SN2 typique, on a un cœur de fer, donc le plus massif, on est allé dans la nucléosynthèse jusqu'au fer. Donc on a cette première étape avec, comme on l'a vu dans les précédents exposés, on brûle les divers éléments en couches. À l'extérieur, on aura encore une couche d'hydrogène qui va brûler l'hélium, puis l'hélium qui va brûler jusqu'au carbone, etc., jusqu'au fer. Donc c'est une fois que le fer, lui, devient inerte, ne peut plus aller plus loin. À ce moment-là, le fer n'a plus, ce noyau de fer n'est plus équilibré entre pression de radiation et gravité, donc il va tout d'un coup s'effondrer, et surtout avec la pression de toutes les couches qui vont tomber dessus. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, il va se concentrer, il va y avoir une proto-étoile à neutrons, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pression de Pauli, on l'a vu pour les naines blanches la dernière fois, mais ici, cette fois-ci, les électrons vont se combiner au noyau pour former des neutrons, et donc on va avoir un gaz dégénéré de neutrons qui sont des fermions aussi, donc qui obéissent à la statistique de Fermi-Dirac, et donc on va avoir une pression qui va empêcher l'effondrement gravitationnel. Mais il y a tout de même, donc il y a de la matière qui continue de tomber des couches supérieures, et lorsqu'on tombe sur une étoile à neutrons qui est très très compacte, l'énergie gravitationnelle est énorme. On l'a vu pour un trou noir, on arrivait à transformer presque 10% de MC2 en énergie pour un trou noir supermassif. Ici, on a 4% de la matière MC2 qui va être l'énergie gravitationnelle qu'on peut retrouver lorsque cette masse tombe. Et donc, elle est énorme par rapport même à l'énergie nucléaire. Lorsqu'on brûle de l'hydrogène pour devenir l'hélium, on n'a qu'une certaine fraction, même pas 1% de MC2. Donc cette énergie gravitationnelle est énorme, et c'est elle qui va faire rebondir la matière sur ce cœur de fer qui ne peut pas se concentrer plus, puisqu'on a la pression de Pauli qui résiste, et donc on va rebondir là-dessus et faire une explosion énorme. Et c'est ça qui fait l'explosion de la supernovae. Alors évidemment, la masse du cœur est inférieure à 1,5 masse stellaire, puisque au-delà, on aurait un trou noir. Pour l'instant, on a une étoile à neutrons. Alors, ce bilan d'énergie, il est assez important. La luminosité que l'on peut avoir dans une explosion de supernovae est géante. Ça peut aller de 10 puissance 9 à 10 puissance 10 luminosité solaire. Cela veut dire que dans une galaxie qui fait quelques 10 puissance 10 luminosité solaire, une étoile seule peut rayonner autant qu'une galaxie. C'est ce qu'on voit pour les supernovae de type 2. Alors, il y a plusieurs types de supernovae, hein. On a vu qu'il y avait un type 2 et 1. Grosso modo, 2, ça veut dire, on les avait classés comme ça parce qu'on voit le spectre d'abord, et le spectre avait des raies d'hydrogène. Puis le type 1 n'ont pas de raies d'hydrogène. Alors on a type 1A qui a des raies de silicium. Alors on sait que les types 1A sont très particulières. Ce ne sont pas des supernovae qui sont dues à l'effondrement d'une étoile massive, mais plutôt à l'effondrement d'une naine blanche qui est en compagnonnage avec une étoile ordinaire, et l'étoile ordinaire va fournir beaucoup de masse, et les réactions nucléaires vont arriver lorsque cette masse va arriver sur la naine blanche, et on a une supernovae de type 1A. Donc c'est particulier, on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, c'est surtout les autres types, 1B et 1C, qui sont elles aussi des supernovae de type effondrement d'une étoile très massive. Mais cette fois-ci, les raies de l'hélium sont dominantes, et là, il n'y a presque pas beaucoup d'hélium, mais il n'y a pas de H, en tout cas. Donc, c'est ces deux types de supernovae qu'on distingue bien, celles qui sont 1A, donc dues à une naine blanche, et celles-ci qui sont des effondrements d'étoiles massives. Alors, certaines ont gardé leur enveloppe d'hydrogène, et d'autres non, parce que dans un épisode précédent, elles avaient évacué leur enveloppe, peut-être. Et donc, on va voir que ces 1B et 1C sont aussi des effondrements d'étoiles très massives. Alors, le bilan d'énergie est assez important. Le type 1A est bien supérieur, enfin 10 fois supérieur en énergie, Donc parfois, lorsqu'on regarde des supernovae de type 1A, comme vous le savez, ce sont des chandelles standards pour la cosmologie, donc il y a eu beaucoup d'observations, et très souvent on les regarde très lointaines, et on voit la supernovae, on ne voit pas la galaxie dessous. Ça veut dire que vraiment la supernovae est plus brillante que la galaxie en entier. Alors ce qui fait l'énergie qui est évacuée dans l'explosion de supernovae, c'est 99% des neutrinos qui s'en vont très rapidement, en quelques secondes, et puis ensuite c'est, comme on l'a vu, tous ces éléments radioactifs qui, selon leur durée de vie, vont faire prolonger la courbe de lumière des supernovas. Alors cette courbe de lumière, elle peut être caractéristique, on peut reconnaître par la courbe de lumière si on l'observe, si c'est une type 2 ou type 1B par exemple, qui explose comme une étoile massive. Le type 2 a un plateau qui fait à peu près 50 à 100 jours. Le type 1B n'en a pas. Alors pourquoi ? Parce que justement c'est dû à l'hydrogène. Ici vous avez au début donc des couches d'hydrogène avec une autre intérieure qui est plus opaque. Et on peut dessiner ici la photosphère. Qu'est-ce que c'est que la photosphère ? C'est la surface de l'étoile en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que c'est le rayon. À ce moment-là, le gaz est optiquement épais, c'est-à-dire qu'il est opaque. On ne peut pas voir à l'intérieur. Donc c'est vraiment la surface de l'étoile. Toute cette enveloppe d'hydrogène ici est transparente, donc on ne le voit pas, on traverse et on arrive sur la photosphère. C'est un peu comme le Soleil, on regarde la photosphère du Soleil, c'est la surface du Soleil. Et lorsque on explose, évidemment, une partie de l'hydrogène va sortir, va devenir beaucoup moins dense dans l'expansion et donc il va être plus transparent. Donc la photosphère va être plus à l'intérieur de cette enveloppe d'hydrogène et finalement, on s'aperçoit que la température est à peu près la même, 5000 K, c'est-à-dire là où le H devient H+, l'ion hydrogène qui se recombine, et puis le rayon est à peu près le même. Donc la luminosité, c'est 4 pi R2 et la température avec une certaine puissance. Et donc c'est pour ça qu'on a une luminosité constante pendant un certain temps. Évidemment, ça ne va pas durer longtemps dans l'explosion. Donc ça, c'est caractéristique des types 2, c'est-à-dire celles qui ont gardé leur enveloppe d'hydrogène. Alors, il faut noter aussi, entre parenthèses, que les supernovas de type 1A, qui sont donc différentes, ont aussi un plateau, mais le plateau n'a pas la même longueur. Vous voyez que c'est 150 à 400 jours, c'est beaucoup plus long. Donc on arrive à les distinguer entre celles qui explosent des étoiles massives et celles qui sont des étoiles beaucoup plus faibles. Alors ici, on voit un petit peu les divers éléments radioactifs qui permettent d'expliquer la luminosité totale jusqu'à quelques années, hein, puisqu'on a 700 jours. Alors on voit que certains éléments comme sont inférieurs, une durée de vie inférieure à l'année, donc leur luminosité s'éteint assez vite. Les deux qui restent sont vraiment le titane 44 et puis le cobalt aussi qui a une certaine durée de vie ici, donc qui permet d'expliquer pourquoi on arrive à les voir plus longtemps. Alors les paramètres physiques, si on met quelques chiffres là-dessus, donc on a bien dit que la luminosité était très grande, 10 puissance 10 luminosité solaire en gros, ça dépend évidemment de la masse. Ici, nous avons une énergie intégrée sur toute la brillance et le temps de durée de vie, ce qui va être 10 puissance 51 erg, ce qui est énorme, et la masse qui va être éjectée est de l'ordre de 6 ou 7 masses solaires. Et le rayon, à ce moment-là, de cette supernovae est plutôt celui d'une supergéante, 400 rayons solaires. Donc on a bien le plateau qui dure à peu près 70 jours. Et puis, cette dernière phase qui peut nous renseigner justement sur la masse, puisqu'elle dépend beaucoup de ce élément radioactif, le nickel 56, qui est voisin du fer et qui va nous dire si la supernovae était de très forte masse. Alors, on a appris beaucoup, comme je disais, de cette supernovae 1987A. Et 20 ans après l'explosion, on a eu des grandes surprises. Alors, ce que vous voyez, c'est une image du Hubble Space Telescope. On a un anneau. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anneau ? Ce n'est pas ce qui a été éjecté par la supernovae, c'était ce qui a été éjecté auparavant. Hein, 20 000 ans avant l'explosion, l'étoile, qui était une supergéante bleue, pulsait, en fait, et envoyait un petit peu de l'enveloppe autour. Donc, elle a envoyé ça avant. Donc, on avait un anneau de milieu interstellaire qui était là avant l'explosion. Et puis, vous voyez, les éjectas sont au centre. Alors, cet anneau, il fait de l'ordre d'une année-lumière. Et puis, on voit qu'en 94, 99, 2003, etc., 2009, vous voyez une diminution de luminosité de l'anneau qui semblait ne plus être éclairé. Alors ça, c'est la bande rouge et la bande bleue. Puis tout d'un coup, Donc 20 ans après, ça se réveille et on a une luminosité bien plus forte, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et à quoi c'est dû? Eh bien, on interprète cela comme les éjecta. Vous voyez qu'en 94, les éjecta, ils sont ici. Alors, ils se déplacent à quelle vitesse? Au début, c'est 8000 km par seconde. Après, ça se ralentit jusqu'à 4000 km par seconde. Mais en moyenne, ici, ils n'arrivent que 20 ans après au niveau de l'anneau qui était envoyé précédemment. Donc, c'est celui-là, en fait, lorsque les éjecta rencontrent ce milieu interstellaire, il y a des chocs et des rayons X. On le voit en rayons X, on va le voir en image. Et donc, ça réchauffe le milieu interstellaire, et c'est ce qu'on voit. Alors ici, on a fait des modèles. Ici, en pointillé, c'est tout le modèle de la supernova avec le titane. Ici, sans titane et avec titane, on voit que c'est le titane qui fait la dernière partie. Et puis, si on met les rayons X de la collision et des chocs, on voit qu'on arrive à reproduire la remontée. Et puis, vous voyez qu'il y a des anneaux, encore plus loin, qu'on appelle les anneaux externes, et qui sont un écho de rayonnement sur de la matière qui avait été éjectée encore avant, qui est plus ténue. Alors voilà l'image que l'on a de cet anneau, hein, avec Chandra en rayons X, ici, et puis avec ALMA, le télescope millimétrique, l'interféromètre millimétrique qui est au Chili, et qui regarde en millimétrique. Donc ce qu'on voit ici, au centre, ça c'est ALMA. Vous voyez, le vert, c'est le visible avec Hubble. Et ici, le Chandra qu'on a décidé de colorer en bleu. En fait, c'est des rayons X, donc il n'y a pas vraiment de couleur, si vous voulez. Mais là, c'est la somme des trois. On voit que ce qui est émis ici, ce sont les éjecta qui ont beaucoup de poussière et beaucoup de molécules. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ces éjecta, au départ, ça démarre ionisé, bien sûr. Et puis, au fur et à mesure, dans quelques années, on forme de la poussière. Donc, on voit que les supernovas sont des créateurs de poussière, de milieu interstellaire, de la poussière qui émet donc en millimétrique, et puis aussi avec des raies. On a trouvé des raies de la molécule CO, SiO, HCO+, etc. Donc tout ça, c'est dans les raies qui nous donnent aussi la vitesse des éjecta. Alors, on a aussi des résultats récents avec le James Webb qui nous donne l'infrarouge et l'infrarouge moyen de cette supernovae. Vous voyez qu'on a tracé en pointillé blanc l'anneau interstellaire qui était là avant l'explosion de supernovae. Et ce qu'on voit, ce sont des cartes par canaux des éjecta. On voit qu'il y a de moins 4000 ici à plus 4000 km par seconde. Donc aujourd'hui, les éjecta sont à plus 4000 km par seconde. On voit qu'au nord, ça s'approche et ça s'éloigne. Ici, ça s'éloigne, ici, ça s'approche, pardon. Et puis, c'est surtout l'arrêt de fer 1 que l'on voit dans l'infrarouge du James Webb. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un choc qui repart, un choc inverse, qui est un petit peu plus grand que le milieu interstellaire, l'anneau interstellaire, et que l'on voit en l'arrêt de hélium neutre, aussi à plus ou moins 3000 km d'un côté et de l'autre, qui est au-delà de l'anneau. Alors ce qu'on interprète, c'est ici, c'est le modèle suivant. On a finalement cet anneau interstellaire est en train de collimater l'éjecta qui est plutôt sphérique, en fait, l'explosion de supernovae était comme une bulle sphérique, et puis on est limité et par cet anneau, et finalement bon, on rejoint les anneaux externes qui est l'un qui s'éloigne de nous et l'autre qui s'approche. Donc vous voyez, voici le modèle qui est fait et ce qu'on voit dans le ciel avec l'anneau, la bulle et puis les anneaux externes. Donc, l'observation du James Webb nous a apporté pas mal de renseignements. Alors ici, il y a une toute petite animation qui montre bien l'explosion et comme les éjecta qui rencontrent le milieu interstellaire qui était là auparavant et qui font cette image-là. Et puis, on voit les anneaux externes. Et ce qu'on voit avec le James Webb, vous voyez, ce sont les anneaux externes ici, en hélium et en néon aussi, néon 5, qui sont en train de démettre ici dans les anneaux externes. Donc ça, c'est assez important. Donc on a des chauffages différents. Hein. C'est les parties éjecta internes sont concentrées, ils sont chauffés par la supernovae et les noyaux radioactifs. Et puis ensuite, on a les parties externes qui sont chauffées par les ondes de choc et les rayons X dus à la collision des éjecta avec le milieu interstellaire en anneaux. Alors, est-ce que on sait comment explose une supernovae? Eh bien, ça a été un travail très très difficile, très long, Récemment, on y est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de simulations numériques qui ont été faites en ordinateur, et pendant de longues décennies, aucune supernovae n'explosait dans l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on mettait une étoile. Alors, c'est assez compliqué, parce que ça explose en quelques secondes, donc il faut un pas de temps très, très rapide. Il faut prendre en compte beaucoup de processus physiques, du rayonnement, de la gravité, etc. Donc au départ, étant donné les problèmes techniques de simulation, les astronomes l'avaient calculé à une dimension, d'abord en supposant que l'explosion était asymétrie sphérique, ce qui n'était pas le cas, et puis ensuite à deux dimensions dans un méridien, en supposant qu'il y avait une axisymétrie, et même à deux dimensions, ça n'explosait pas. Donc il a fallu avoir la troisième dimension, 3D. Pourquoi ? Parce qu'il y a une turbulence, comme on le voit ici, une grande turbulence des éjectas, et c'est cette turbulence à 3D qui permet de transférer les énergies de grande échelle aux petites échelles, ainsi de suite, et refaire le bilan d'énergie qu'il y a dans une explosion de supernova. Donc là, cette fois-ci, à 3D, ça explose. Mais à 3D, ce sont des calculs gigantesques sur superordinateur, bien entendu. Alors, vous voyez ici une simulation d'une explosion de 9,6 masses solaires, de 20 et puis de 15 en rotation, parce que là, l'étoile ne tournait pas. Lorsque l'étoile tourne, évidemment, il y a une raison bien précise d'avoir une asymétrie. Et là, il y en a une asymétrie. Alors, ce que vous voyez aussi dans le petit film, ce sont les surfaces de la densité du fer à 5% à certains instants. Alors vous voyez comment ça explose, et ensuite on tourne autour pour voir la structure à trois dimensions. Vous voyez que le noyau de fer a un peu explosé ici, et puis on le voit ensuite plus loin, après dans un épisode plus loin de l'explosion, vous voyez qu'il y a un trou, il y a vraiment une explosion, et puis une espèce de structure un peu fractale qui se forme au bout. Donc il n'y a rien de symétrique, et tout est turbulent, non axisymétrique, et c'est pour ça que ça a été relativement difficile. Alors, ce qu'on voit aussi dans ces courbes-là, en fonction du temps, c'était le rayon du choc externe ici. On voit que plus l'étoile est massive et plus le rayon est petit. Ça, c'est un paradoxe qu'on avait déjà vu pour les naines blanches. Hein, les naines blanches plus massives avaient un rayon plus petit, et on voit que c'était sans doute dû à la pression de Pauli, et ici c'est la même chose, on a un pseudo-étoile à neutrons, une proto-étoile à neutrons, et on a des rayons plus faibles pour une masse plus grande. Alors cette asymétrie, elle peut être relevée aussi dans ces projections de Mollweid par Janka et al., c'est l'équipe allemande qui a réussi la première à faire exploser les étoiles en ordinateur, et vous voyez ici trois instants différents, donc c'est quelques secondes, hein. Trois instants différents où on a ploté, donc en fonction des azimuts et des méridiens, si vous voulez, des longitudes à latitude, on a ici le nombre leptonique, c'est-à-dire le nombre de neutrons moins les antineutrons sur la moyenne, donc pour voir un petit peu l'asymétrie en fonction des angles. Et on voit qu'il y a une très très forte asymétrie de ce nombre leptonique, qui peut être jusqu'à 8, un grand nombre. Alors qu'ici, on a l'énergie totale, la totale des neutrinos qui sont partis, c'est toute l'énergie, et tous les leptons qui partent, sur la moyenne aussi, et on voit que ce n'est que 10%, même pas, 6%. Donc en énergie, c'est pas tellement anisotrope, par contre, en nombre leptonique, c'est très anisotrope. Donc c'est les neutrinos qui sont très turbulents et très asymétriques. Donc l'asymétrie est due à cette convection turbulente des neutrinos. Alors cette turbulence, convection turbulente de ces neutrinos font d'une asymétrie très grande, ce qui fait que les éjectas partent d'un côté et pas de l'autre, et on a une espèce d'effet de recul du noyau. Et on va voir que quand on compare avec les supernovae, les restes de supernovae, on a des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 1000 km par seconde du noyau central, dû à cet effet de recul, à cette non-symétrie de l'explosion. Ici on voit quelques surfaces d'éléments radioactifs avec la couleur qui est la vitesse. On voit comment c'est perturbé et pas du tout symétrique comme on pouvait s'imaginer au départ. Alors on va le comparer à une supernovae de type 2. Dans la Voie lactée, il y en a une qui est Cassiopée, que personne n'a vue. Enfin, le crabe, les gens l'ont vue en l'an 1040, les Chinois. Celle-ci, on ne l'a pas vue, on pense qu'elle a explosé il y a 340 ans. Donc plus jeune que le crâne. Et ce qu'on voit ici en couleur, ce sont les différents éléments. Ici, c'est l'arrêt de titane, que plus on voit en bleu, en orange, c'est plutôt le fer. Donc on voit que les éjectas, il n'y a rien de symétrique du tout. Ça part d'un côté, de l'autre, on voit que c'est complètement différent. Et on peut mesurer la vitesse du noyau par rapport aux étoiles environnantes, et c'est en effet une vitesse qui est de l'ordre de 1000 km par seconde. Donc ça correspond vraiment à la simulation qui était faite justement pour représenter Cassiopée. Donc ça marche pas mal. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup des supernovae qui sont vues dans notre Voie lactée? On les connaît mieux, évidemment, si elles sont toutes proches. Eh bien, il y en a quelques-unes seulement qui ont été vues dans l'histoire. Il y a le crabe, qu'on connaît tous bien. Alors, j'ai mis en bleu celles qui sont vraiment des supernovae de type 2, donc celles dont on s'intéresse aujourd'hui dans l'exposé, c'est-à-dire les explosions d'étoiles très massives et qui sont donc qui ont vécu très peu de temps. Toutes les autres, celles de Tycho, celles de Kepler, celles de Tycho c'était en 1570, Kepler c'était en 1604, elles sont de type 1, type 1A, donc c'est plutôt des naines blanches, celles-ci aussi. Alors pourquoi? Parce que sans doute elles sont plus lumineuses, c'est plus facile à voir. Vous voyez celle de Kepler ici, en X-ray, donc Chandra. Ici c'est un zoom, les trois sont les zooms de ce que vous voyez dans l'encart là, et puis dans le visible vous commencez à voir une dentelle. On sait qu'il y a la dentelle du cygne qui est aussi une supernovae probablement, et puis en poussière, en infrarouge on voit la poussière, on voit que la poussière ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans les rayons X, donc la supernovae éjecte énormément de poussière, et celle de Tycho aussi qui est une supernovae de type 1A. Donc ça c'est les supernovae proches. Mais on peut comparer surtout avec Cassa et Cram pour l'explosion des étoiles massives. Il y a aussi d'autres supernovae qu'on a vues à l'intérieur de nébuleuses planétaires. Un papier récent de Soccer fait la remarque que, évidemment, on s'y attend. Si, en général, une naine blanche a éjecté sa nébuleuse planétaire, on a vu que c'était un phénomène très fréquent. Et parfois, il y a des binaires qui sont à l'intérieur de cette nébuleuse planétaire, c'est pour ça qu'elles ont une forme très asymétrique. Et si les masses sont assez grandes, et là c'est le cas, on peut avoir une explosion qui est presque de type 2. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, l'enveloppe était de l'hydrogène, donc on voit des rayons d'hydrogène, et on voit qu'il y a une deuxième structure ici. Donc après avoir éjecté la nébuleuse planétaire, vous avez peut-être une explosion de supernovae qui est à l'intérieur des nébuleuses planétaires. Donc ils appellent ces objets supernovae inside planetary nebulae, ils en voient quelques-unes. Alors comment on observe ces supernovae? Eh bien on voit qu'il y a énormément de phénomènes très énergiques, on a vu les rayons X, il y a aussi des sursauts gamma. Alors, ces sursauts gamma, on les a détectés récemment, des instruments militaires, en fait, les avaient détectés en 1967. On ne savait pas du tout ce que c'était. On pensait que ça avait l'air d'explosion, disons, provoquée par l'homme. En fait, pas du tout. On a compris 30 ans plus tard ce que c'était, parce qu'on les observait et on a vu que c'était pas quelque chose qui était dans la Voie lactée, dans le système solaire, etc., mais quelque chose qui était distribué de façon régulière partout et qui était plutôt cosmologique, c'est-à-dire dans les galaxies extérieures. On ne voit aucunement la forme de la galaxie dans cette image de BATSE, qui est un satellite Gamma Ray Observatory, un instrument sur ce satellite, et qui, à cette époque-là, avait détecté 3000 sursauts gamma. On appelle ça Gamma Ray Burst, ou sursauts gamma. Aujourd'hui, on en a à peu près 10 000 en 2023. On a beaucoup de ces sursauts gamma. Et pourtant, ces sursauts gamma, en tout cas, une des parties, vous voyez qu'il y a des sursauts gamma de plusieurs sortes. Il y en a qui sont courts et longs. Alors, ce qu'on appelle court et long, tout est relatif. La séparation, c'est 2 secondes. Donc, les courts, c'est vraiment de l'ordre d'une seconde ou moins. Donc, énormément d'énergie qui est mise dans 0,5 secondes, par exemple, ici. Et puis, les longs, ça peut être une minute ou plus, quelques secondes ou une minute. Et on pense que les longs, correspondent à l'effondrement d'une étoile géante, donc à une supernovae, mais tellement plus fort que ce serait ce qu'on appelle une hypernova. Et donc, évidemment, ces étoiles qui sont encore plus massives et qui explosent avec beaucoup plus d'énergie sont beaucoup moins abondantes beaucoup moins fréquente que les supernovae. On pense qu'il y a à peu près 100 à 1000 fois plus de supernovae que de sursauts gamma. Pourtant, on en détecte beaucoup plus. On en a 10 000 aujourd'hui. Quand on regarde les supernovae les plus connues, les supernovae type 1A qu'on a cherchées pour les chandelles standards et qui sont 10 fois plus brillantes que les supernovae de type 2, eh bien, aujourd'hui, on a le Panthéon, l'échantillon Panthéon qui fait même pas 1000 supernovae. Donc, on connaît 1000 supernovae, on connaît 10 000 sursauts gamma. Alors, pourquoi ils sont pourtant bien moins fréquents? Eh bien, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus énergiques et qu'on les voit beaucoup plus loin. On les voit juste près du Big Bang. Alors que les supernovae, on ne les voit pas jusque-là. On voit un peu la moitié de l'âge univers, mais pas jusqu'au Big Bang. Donc, évidemment, le volume considéré est beaucoup plus grand. C'est un volume cosmologique et on en a beaucoup plus. On détecte aujourd'hui, avec ces instruments, un sursaut gamma par jour. Ce qui n'est pas le cas des supernovae, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est très intéressant, car alors comment on a su que ces longs correspondaient à des explosions de supernovae, alors que les courts, c'est plutôt une étoile à neutrons binaires? Eh bien, c'est qu'on a des exemples. Par exemple, en 1998, on a vu la première supernovae, donc dans cette galaxie-là, vous voyez, la supernovae est ici, qui correspondait exactement à la boîte d'erreur du sursaut gamma que l'on a observé dans cette direction. Alors la coïncidence, à quelques secondes près, la coïncidence montre que c'est cette supernovae, cette hypernova, qui a fait le sursaut gamma. Alors vous voyez un petit peu la courbe de lumière. Alors cette courbe de lumière, attention, parce qu'on l'a un petit peu écartée les diverses courbes. Ici on a luminosité ou en magnitude. On a écarté I vers le haut d'une magnitude, R de 0,5, et puis I vers le bas de... Lui, en fait, il n'y a que le vert et le bleu qui n'ont pas été touchés, pour donner une petite idée. Donc, on a quand même des intensités différentes dans toutes les longueurs d'onde, mais ça se recourberait si on n'ajoutait pas ça. Donc, on a établi, et ça c'était la première, mais il y en a d'autres, on a établi que les hypernovae correspondaient à des explosions à sursaut gamma. Alors, selon la masse, évidemment, on peut avoir soit une supernova, soit une hypernova. On va voir que l'hypernova, elle est plutôt ramassée et le sursaut gamma, ça va être dans le plan perpendiculaire au plan équatorial. Alors je ramène un petit peu les idées que l'on se fait sur un type 2. Hein, on avait vu les supernovae de type 2, c'est qu'il y a une enveloppe d'hydrogène. C'est pour ça qu'on voit dans le spectre les rayons d'hydrogène. Le type 1B et type 1C, c'est lorsqu'il n'y a plus que l'hélium, et là il y a un petit peu moins d'hélium. Donc ça c'est un petit peu... Et puis, on va parler tout à l'heure aussi des supernovae à instabilité de paire. PI, c'est paire instabilité. Alors, il y a alors, cette interprétation de sursaut gamma en hypernovae veut dire que ça ne se répète jamais. On a détruit l'objet qui émet le sursaut. En fait, on a quelques répéteurs. Ça veut dire que tout n'est pas supernovae ou hypernovae parce qu'on a quelques sursauts qui se répètent dans le même objet. Donc on les appelle répéteurs. En fait, c'est plutôt des rayons gamma soft, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très durs en énergie, c'est-à-dire pas très énergiques. Et on pense que ce sont des étoiles à neutrons très très magnétiques qu'on appelle magnétars. Et lorsque le champ magnétique perce la surface, la croûte, on a ces sursauts qui peuvent émettre des sursauts gamma. Et en effet, on en a vu quelques-uns, par exemple dans la galaxie MC83, ou même dans notre galaxie, il y en a un. Et on pense qu'à 5 sigma, que la probabilité de les trouver, ça correspond en effet à des répéteurs, donc des étoiles à neutrons très magnétiques. Alors celui qui est dans notre galaxie s'appelle SGR 1935. C'était aussi une supernovae dans le temps. Et on a des sursauts X et des sursauts radio aussi. Donc on a ce qu'on appelle les FRB, les Fast Radio Bursts, des sursauts rapides radio. Et en effet, on a la coïncidence de sursauts radio. En X, c'est le noir et en radio, le orange. On voit que ce n'est pas tout à fait coïncident en temps. L'un est un petit peu avant l'autre, mais ça correspond quand même à ces deux sursauts. Et puis, voici une photo radio faite avec l'interféromètre MIRCAT en Afrique du Sud de cet objet à 21 cm. On a ici 0,5 degrés, donc c'est quelque chose d'assez grand, et un zoom de la partie centrale de 1,8 minutes qui émet tout ça en radioastronomie. Alors, l'explosion de hypernova, voici un petit peu comment on peut s'imaginer l'effondrement du cœur de cette étoile très massive. Et puis, il y a une rotation qui va ralentir, par la force centrifuge à l'équateur, qui va ralentir l'effondrement ici. Et donc, on va aplatir, en fait, ça va s'effondrer beaucoup plus sur l'axe que perpendiculairement à l'axe. Et on a ce jet de gaz qui va être à la fois le sursaut gamma qui part dans cette direction, ils sont assez focalisés aussi, et puis un sursaut radio qui va être perpendiculaire aux 10 accrétions qui va rester après la formation du trou noir ou d'une étoile à neutrons. Alors, maintenant, pour les étoiles très très massives, on a parlé de supernovae de type accrétion de paires, instabilité de paires. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, lorsque on a quelque chose d'encore plus massif, donc encore plus énergique, on a des photons encore plus durs, eh bien, chaque photon peut se transformer en une paire positron-électron. On a assez d'énergie pour que MC2 soit la création de cette paire. Alors, vous voyez que, au lieu d'avoir des photons qui vous créent une pression de radiation qui compense la gravité, cette fois-ci, on va précipiter en petites particules qui vont s'en aller et on n'aura plus la pression de radiation. Donc ça nous crée un déséquilibre total qui va pouvoir exploser carrément tout l'objet et on ne reste plus rien, il n'y a plus de noyau. Alors l'avantage, c'est qu'au moins tous les éléments lourds créés dans l'étoile sont rendus au milieu interstellaire, donc ça enrichit beaucoup au milieu interstellaire en éléments lourds, mais on ne peut pas former de trous noirs très massifs. Et ainsi, on a pu montrer que... on ne pouvait pas former des trous noirs plus que 52 ou 133 masses solaires d'après les modèles, puisque tout est disparu, il n'y a plus de cœur qui reste. Donc cette instabilité nous dit qu'on a un plafond de la formation des trous noirs dans les explosions de supernovae. Alors ces étoiles très massives, c'est un petit peu comme Eta Carinae, c'est une supergéante bleue, on s'attend qu'elle a 120 masses solaires, qu'elle va sans doute peut-être éclater en supernovae à instabilité de paires. Ça, ce sera un événement formidable. On pourra étudier au moins cette instabilité. On n'en a jamais eu une seule supernovae de ce type à voir de près. Donc là, ce serait un événement formidable. Donc ici, ce sont des modèles qu'on a. On sait que ces supernovae sont assez instables. Elles pulsent. Elles envoient... une perte de masse dans l'enveloppe, et puis on a pu calculer ici en fonction de la masse, l'échelle est 10 puissance 7 secondes, donc c'est plutôt l'heure de l'année, l'énergie, l'entropie, la température, jusqu'à l'explosion. Si on regarde d'autres oscillations, alors c'est des pulsations d'instabilité, et on voit que à la fin, alors ça peut durer très peu, 10 puissance 4 secondes, et là 10 puissance 5 secondes selon la masse. On s'attend à voir d'énormes pulsations jusqu'à exploser et former le trou noir ou pas, si l'énergie est telle que tout s'en va et on ne forme plus rien. Alors ça, c'est très intéressant parce que on voulait interpréter les ondes gravitationnelles que l'on a détectées. GW, c'est pour gravitational wave, ondes gravitationnelles. Les événements, comme vous le savez, on les dénomme comme 15, c'est-à-dire l'année, en 2015. Et puis 9, 6 septembre, et donc c'est le 14 septembre, on a détecté la fusion de deux trous noirs de 36 et 29 masses solaires. Donc on a pensé que ces trous noirs, c'était le cœur de l'étoile supermassive, puisqu'il faut qu'il reste un tout petit cœur. Et donc on a essayé d'interpréter ça. Alors ici, vous avez l'interprétation. En fait, on ne sait pas exactement dans ces étoiles si la métallicité est forte ou pas. Si la métallicité est assez forte, vous pouvez perdre beaucoup de masse par pression de radiation sur les poussières et les aimants lourds. Ou alors, si vous avez très peu de métaux, par exemple inférieur à 0,5 la métallicité solaire, à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de perte de masse et vous pouvez former un trou noir peut-être un peu plus grand, d'où peut-être l'interprétation de cet objet-là. Alors ces instabilités de paires, quand on regarde dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, on a regardé ça à plusieurs reprises, ça se passe très vite avec des pulsations qui sont ici. Ici on a, selon la masse, les plus grosses masses ici, et l'instabilité dans le diagramme température-densité sont dans cette région-là. Donc on arrive par les modèles à les prédire, mais on n'en a jamais vu, en quelque sorte. Et là, on essaie de regarder tous les fusions de trous noirs qu'on a vues dans les ondes gravitationnelles pour savoir si ça dépasse le maximum. Alors, à cette époque-là, ça ne le dépassait pas. Maintenant, on va voir qu'on a des événements qui dépassent. Alors, avant d'arriver à la plus forte masse, ici, je signale la supernovae la plus lumineuse. Et là, c'est encore un mystère. Vous voyez qu'on ne connaît pas tout. Il y a encore plein de mystères. Ici, on a détecté, donc en 2006, cette supernovae dans la galaxie 1260, qui est proche du noyau. En rayons X, on voit le noyau et la supernovae à peu près à égalité. En optique, on voit la supernovae plus brillante que le noyau. Et vous voyez un petit peu la comparaison de cette supernovae, la courbe de lumière, en fonction de toutes les autres supernovae que l'on connaît, par exemple 1987A, qu'on a bien décrite aujourd'hui. Vous voyez que c'est 100 fois plus brillant. Donc là, on comprend pas exactement à quoi est due cette superbe brillance. Certains ont prétendu que c'était peut-être une supernovae de type 1A, c'est-à-dire une naine blanche, parce qu'en effet, les types 1A sont plus lumineuses que les types 2. C'est-à-dire que les explosions d'étoiles massives, hein, comme 1987, mais il y a des problèmes parce qu'on voit de l'hélium dans le spectre. Normalement, une supernovae 1 a rejeté tout son hélium avant, mais bon, peut-être qu'il y avait des milieux interstellaires, etc. Donc je passe un petit peu rapidement. Il y a un grand mystère, on n'a pas résolu. Donc là, c'est un article relativement récent qui prétend qu'il fait un modèle avec des supernovae de type 1A, mais ce n'est pas encore résolu. Alors maintenant, je vais m'intéresser au trou noir, mais je suis un petit peu en retard, donc peut-être aller un peu plus vite. Donc, les trous noirs, ce qu'on sait sur les trous noirs, on aura tout à l'heure le séminaire qui va nous détailler un peu plus, c'est que ces trous noirs ont un horizon, et l'horizon de l'horizon est tel que la vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc la vitesse d'échappement, c'est lorsque vous écrivez l'énergie cinétique qui est égal à l'énergie potentielle, donc Gm sur R. Et vous voyez que si vous faites V2 égale C2, vous avez le rayon de l'horizon qui est proportionnel à la masse du trou noir. On a détecté ces petits trous noirs de masse stellaire très tôt, en 1965. On avait été convaincus qu'ils existaient par l'observation de Cygnus X1, qui était la première binaire X détectée. Alors, binaire X, c'est-à-dire qu'il y a un trou noir. Et puis, on a détecté l'étoile. On ne détecte pas le trou noir, mais on détecte l'étoile qui tourne autour d'un objet invisible. Et on peut avoir, avec l'orbite de cette étoile ordinaire, avoir la masse du trou noir. Alors aujourd'hui, elle a été remise un petit peu plus élevée que ce qu'elle était en 1965, parce qu'on a recalibré la distance. On a un trou noir de 21 masses solaires et une étoile OB compagnon de 40 masses solaires pour cette Cygnus X1. Alors, pour donner une petite idée des tailles de ces horizons, hein, pour 5 masses solaires, typiques pour un trou noir de masse stellaire, on aurait un horizon de 15 km. Et ce qui veut dire que s'il y a de la matière qui tourne autour, vous voyez que la période de rotation, c'est la milliseconde. Donc, on s'attend à trouver des variations, des variabilités du flux qui vont peut-être être de cet ordre-là. Donc, cette variation va nous donner une petite idée. Alors, il y a aussi le fait que le trou noir peut tourner sur lui-même, avec un paramètre sans dimension qu'on appelle A, qui est le moment cinétique J, normalisé par la masse, etc. Et donc A est compris entre 0 et 1. On est aperçu que pour ce trou noir de Cygnus, on a presque 1. C'est-à-dire qu'il tourne au maximum de ce qu'il pourrait. Et on s'est aperçu aussi que l'orbite stable autour du trou noir dépend de cette rotation, du spin du trou noir. En fait, si le trou noir ne tourne pas, vous avez A ici en abscisse, si A égale 0, eh bien, l'orbite stable, on ne peut pas s'approcher plus du trou noir que de 3 rayons de Schwarzschild, c'est-à-dire 3 horizons. Et puis, s'il tourne, on voit bien qu'on va s'approcher beaucoup plus du trou noir. Ça, c'est intéressant pour savoir justement interpréter les variations. Alors, voici un petit peu l'image de ce qu'on peut faire. Si A égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spin du trou noir du tout, on voit que le gaz n'est stable que dans une orbite qui est 3 fois le rayon de l'horizon. Alors évidemment, le gaz va tomber, mais il n'est plus du tout dans une orbite stable. Et puis, si le spin tourne beaucoup, et dans le même sens que la rotation, et dans le même sens que le spin du trou noir, à ce moment-là, on peut s'approcher beaucoup plus. Et donc, ce qu'on observe, en fait, sont des oscillations. Alors, qui ne sont pas tout à fait périodiques, mais des oscillations quasi-périodiques, ce qu'on appelle QPO, quasi-périodic oscillation, dont un exemple est montré ici. Vous voyez qu'on a fait passer un modèle, mais c'est une oscillation qui est un petit peu une modulation de fréquence et une modulation d'amplitude, parce que, eh bien, on va voir pourquoi ces oscillations ne sont pas exactement périodiques. Elles sont plus régulières pour des binaires X de faible masse. On appelle ça low mass X-ray binary. Alors que là, c'est high mass. Donc, c'est beaucoup plus instable pour les hautes masses. Alors, voici comment on les classe. Hein, on fait la transformée de Fourier du signal, et si vraiment il y avait une seule fréquence, on aurait une fonction delta. Mais ici, c'est pas tout à fait périodique. C'est périodique exactement pour un pulsar. Alors là, on a vraiment une fréquence bien précise. Là, pas du tout. On a une bosse, et qui est la fréquence de quasi-périodique. Parfois, on en a deux. Et donc, on a un petit schéma. On a pu les classer un petit peu comme pour les noyaux actifs. En fait, on sait que il y a des phases d'accrétion où le trou noir est très brillant, en fait, vraiment, le disque d'accrétion autour du trou noir est très brillant, et à ce moment-là, on a des rayons X qui sont de faible énergie, et puis lorsque il n'y a pas beaucoup d'accrétion de matière, à ce moment-là, la luminosité est faible, et les rayons X sont beaucoup plus durs. Alors ça, on sait un petit peu l'interpréter. Alors d'abord, j'aimerais redonner une petite ordre de grandeur des orbites du gaz dans le disque d'accrétion autour du trou noir. S'il était classique, eh bien, on aurait comme les orbites de Kepler, hein, dans le système solaire, on aurait une période oméga, enfin, une vitesse angulaire oméga, ou une période de pi sur oméga, qui serait Gm sur R3 1/2, c'est-à-dire que la loi de Kepler, la période T2 étant A3, si vous voulez, on retrouve ici la loi de Kepler. Et donc, on a des fréquences qui seraient, pour un rayon de 15 km, du kilohertz. Donc, on aurait des fréquences orbitales de ce kilohertz. Ou bien pour une masse plus grande, beaucoup moins, 100 Hz ou 1 Hz, c'est-à-dire une seconde de période de révolution. Alors, si c'est en relativité générale, on a quelque chose d'un peu plus complexe. On a des fréquences en Z, en θ et en R qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, ça peut expliquer qu'il y ait des oscillations quasi-périodiques, peut-être avec deux pics. On a vu qu'il y avait deux pics dans la transformée de Fourier, et des fréquences différentes. Et puis, ce qui peut expliquer aussi le fait qu'il n'y ait pas de périodicité exacte, c'est que le gaz, ben, il tombe, il va en perdant de l'énergie, il va spiraler vers le centre. Donc à un moment donné, il a une certaine période, et puis la période va être de plus en plus grande. Donc on a une certaine non-périodicité parce que le gaz ne reste pas exactement sur la même orbite. Et en plus, il va aussi avoir une précession. Si par exemple l'accrétion se fait dans un plan qui n'est pas le plan équatorial pour le spin du trou noir. Alors ça, c'est peut-être ce qu'on va ici représenter. Ici, on a un trou noir qui a un spin vertical, par exemple, et le gaz arrive avec une certaine orientation qui n'est pas perpendiculaire au spin du trou noir, qui n'est pas le plan équatorial. À ce moment-là, on va avoir une précession. Pourquoi ? Parce que lorsque le trou noir crée une gravité qui est finalement une déformation de l'espace, lorsque le trou noir tourne, l'espace va tourner avec le trou noir et va forcer tout ce qui est autour à tourner avec lui. Et donc ça va créer un couple de torsion qui va essayer d'aligner la matière autour avec le spin du trou noir dans le plan équatorial. Donc soit là, il y a une viscosité de ce gaz et à ce moment-là, ça va faire un disque qui va être tordu comme une crêpe, ou alors le gaz n'est pas assez visqueux et à ce moment-là ça coupe carrément en des petits disques, on va avoir ces disques qui vont avoir des périodes différentes, etc. Donc ça peut expliquer aussi qu'il y ait des périodes qui ne sont pas tout à fait périodiques. Alors ce qu'on peut regarder tout de même, c'est un petit peu comme pour les trous noirs supermassifs, si l'accrétion est très efficace. Il y a beaucoup d'accrétion, beaucoup de gaz accrété. À ce moment-là, on a un disque mince autour du trou noir qui est très efficace à rayonner. À ce moment-là, on n'aura pas de couronne. Ce qu'on appelle la couronne, là, ce qui est en vert, c'est lorsque le disque n'est plus assez efficace pour rayonner, à ce moment-là, ça chauffe et on a un espèce de couronne de gaz chaud. Et à ce moment-là, le disque qui émet en rayons X thermique, c'est-à-dire assez soft, d'énergie assez faible, ces rayons X vont être énergisés par les électrons et relativise ce qu'il y a dans la couronne, et par un effet Compton inverse, on va transformer les rayons X de soft à hard, c'est-à-dire à une beaucoup plus haute énergie, et donc c'est pour ça qu'ils ne seront plus du tout thermiques, mais ils seront réénergisés par les électrons relativistes. À ce moment-là, on explique pourquoi, dans une phase où on n'a pas beaucoup d'accrétion, eh bien, on a une couronne, et donc on a des X durs, alors qu'on a une luminosité faible, alors que dans la phase où on est très énergique, donc on a une très, très forte luminosité, eh bien, on a des rayons X thermiques, donc doux. En fait, c'est ce qu'on voit dans ce petit diagramme. Et ce qu'on prédit aussi, c'est que dans cette phase, disons qu'on va appeler 1 ici, c'est-à-dire faible luminosité et rayon X dur, eh bien, on a l'intensité des X qui va bien en croissant en fonction de la fréquence. Donc, cette théorie de rayonnement X et d'accrétion semble marcher. Et puis, en fin de compte, on a aussi rayonnement radio, là c'était pour les X, le rayonnement radio, qui est dû à des phénomènes magnétiques, qui est, il y a plusieurs phénomènes, par exemple la batterie cosmique, qui a été une espèce de grand effet dynamo ici, et puis ce qu'on a déjà étudié pour les trous noirs supermassifs, qui pourrait marcher aussi, un processus magnétique, qui émet des électrons relativistes, qui permettent d'avoir l'émission synchrotron et des jets radio, ce qu'on observe aussi autour des binaires X. Alors, une des binaires X qui s'appelle un peu un micro-quasar, parce que c'est quand même un petit trou noir, un petit noyau actif, mais en fait, il est très intéressant, cette binaire X, qui s'appelle SS433, qui est très étudiée, car les variabilités sont beaucoup plus faible que pour un trou noir supermassif. Plus vous avez une forte masse, plus les variabilités sont longues. Vous avez des durées de l'année ou des dizaines d'années. Alors ici, c'est plutôt les minutes ou les heures. Donc on arrive à étudier ces trous noirs, comme ils sont petits, avec des variabilités plus grandes de taille humaine, en quelque sorte. Donc on peut le suivre. Il a été observé pendant des dizaines d'années. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a un trou noir de masse 15 masses solaires, un compagnon de 21 masses solaires, et qui, de temps en temps, absorbe beaucoup de masse due à son compagnon et émet un jet radio qui est relativiste et qui précesse. Alors parfois, au nord, ça vient vers vous, parfois ça recule. Donc tout ça a été observé pendant plusieurs années et la vitesse des électrons est presque relativiste. Elle est à peu près 6 sur 4. Voici un petit peu les observations de cet objet. On voit en radio, on a beaucoup de résolution avec les interféromètres à grande ligne de base. On peut avoir des résolutions de 5 milliarcs/secondes et on a des mouvements propres de ce jet qui est de 7 à 10 milliarcs/secondes par jour. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut suivre. On peut suivre les variations tous les jours, ce qui n'est pas le cas d'un quasar ou d'un trou noir supermassif. Donc ici, on a à grande échelle, on a une nébuleuse à 1,4 GHz, c'est 21 cm de longueur d'onde. Quand on fait un zoom là-dessus, on a ce jet radio, qui est celui qui précesse, là, ici, et puis, à l'intérieur, on a encore un petit jet radio qui commence à prendre une certaine orientation et qui est tout près, 50 AU, c'est-à-dire à peu près la taille du système solaire, autour du trou noir. Vous voyez un peu l'intérêt des observations de ces trous noirs binaires. Alors maintenant, j'en viens à la distribution de masse des trous noirs et le décalage qu'il y a entre les trous noirs qu'on mesure avec les binaires X. On a vu qu'on mesurait des trous noirs plutôt de l'ordre de 5, 10, jusqu'à 20 masses solaires, pas plus. Et puis les trous noirs qu'on mesure avec les ondes gravitationnelles. On s'est aperçu avec les ondes gravitationnelles qu'on obtenait des trous noirs beaucoup plus massifs. Par exemple, la distribution de masse, on a deux pics. Il y en a un à 10 masses solaires, l'autre à 35 masses solaires. Peut-être vers 7,5, mais ils sont toujours plus gros. Alors là, on pense que c'est un effet de sélection. Évidemment, il est plus facile de détecter les ondes gravitationnelles lorsqu'on a une fusion de deux trous noirs plus massifs. Ça se détecte beaucoup plus loin, donc on arrive à avoir un volume cosmique plus grand. Alors que les trous noirs qui sont dans les binaires X, alors c'est quelque chose de local, dans l'univers plus proche, et on ne voit que ceux qui sont assez petits. Alors, on voit un petit peu la comparaison entre les trous noirs et puis la masse détectée par en rose, il s'agit des binaires X de haute masse, et puis on voit qu'on va très loin avec les ondes gravitationnelles, ce qui n'est pas le cas le pic des binaires X locales est beaucoup plus petit. Donc on a ce problème de sélection, et on peut même dire que 20% des ondes gravitationnelles sont dues à des masses supérieures à 35, alors que c'est seulement 3% pour les binaires X de haute masse, même pas les faibles masses. Donc la probabilité de fusionner ces trous noirs ne serait que très très faible dans le temps de Hubble. Donc c'est pas ces trous noirs-là qui vont nous donner des candidats à des ondes gravitationnelles. Alors il y a en plus ce qui superpose, c'est que les trous noirs qui étaient actifs autrefois sont plus massifs. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, les trous noirs qui sont très très massifs, ils sont invisibles, ils sont au centre des ondes gravitationnelles, des galaxies elliptiques qui ne sont pas actives, alors que les trous noirs autrefois étaient plus actifs. Donc il y a peut-être un effet d'évolution cosmique qui se passe aussi. Alors, on rappelle ici les masses détectées par les ondes gravitationnelles. Vous voyez un petit peu tous les trous noirs en bleu, et puis ici, ce sont les étoiles à neutrons. Je parle ici que des trous noirs. Et on voit qu'on a détecté quand même des trous noirs qui étaient exceptionnellement massifs et qui ne se forment pas par l'effondrement de supernovae. On avait vu que la limite, c'était 52. Alors ici, on voit, d'après les observations 1, 2 et 3, on voit qu'on détecte beaucoup plus avec les instruments LIGO, Virgo, qui sont plus à jour aujourd'hui. Et puis, on a vu aussi qu'on détectait surtout des masses égales entre les deux fusions, M1 et M2. On a le rapport M2 sur M1. On a une exception ici, qui est GW190814, donc en 2019, où le rapport entre les deux masses est un rapport 9, presque 10, et se retrouve ici. Vous voyez que c'est un peu la rareté. Tous les autres sont ici. On a évidemment des barres d'erreur sur les masses. Et puis les étoiles à neutrons, il n'y en a pas beaucoup. Et une étoile à neutrons et un trou noir qui doivent se trouver là-dedans, dans ce triangle, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc on voit qu'on a aussi des biais on a aussi les pics de masse dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a des biais de sélection qui se passent avec les ondes gravitationnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a détecté, le plus gros qu'on a détecté, commencé avec 65 et 85 masses solaires. Et là, on a vu que c'était pas possible de le créer par l'effondrement d'une seule étoile, une supernovae. Donc, qu'est-ce qui arrive là? Eh bien, on s'imagine que c'est peut-être une collision de plusieurs trous noirs successifs, à l'intérieur peut-être dans un amas globulaire. Un amas globulaire, c'est un amas de 100 000 étoiles qui est réuni dans un parsec, et il y a un taux de collision entre étoiles assez important. Donc peut-être qu'on forme d'abord des petits trous noirs qui sont dus, elles, à des supernovae, et puis ensuite les trous noirs fusionnent pour trôner ces trous noirs qui sont de masse intermédiaire. Alors ça nous mène justement à ce problème très intéressant de masse intermédiaire. Pour l'instant, on a des trous noirs de masse stellaire et puis des trous noirs supermassifs qui font 1 million de masse stellaire, et on ne voit pas les trous noirs de masse intermédiaire. Pourtant, ils doivent exister. Alors pourquoi on ne les voit pas? Ces trous noirs TNMI, ou trous noirs de masse intermédiaire, si vous voulez qu'on l'appelle IMBH en anglais, parce que tout simplement, on pense que ils ne sont pas au centre des galaxies. Donc, ce qu'on cherche quand on regarde un trou noir supermassif, c'est au centre des galaxies, mais ces trous noirs sont assez petits, et donc la friction dynamique qui les ferait se décanter et arriver au centre n'est pas assez forte sur ces trous noirs parce qu'ils sont de masse trop petite. Donc le temps de friction dynamique serait trop grand. Alors maintenant, s'il faut les chercher dans toute la galaxie, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Dans une galaxie très proche, mais c'est 33, par exemple, on n'a pas vu de trou noir supermassif du tout. On s'attendait à trouver un trou noir de masse intermédiaire, il n'y en a pas. Alors je vais aller assez vite maintenant pour montrer que cette recherche, on a quelques candidats, mais ce sont quand même que des candidats. Dans la relation entre la masse du bulbe et la masse de trous noirs d'une galaxie, on a des trous noirs de masse intermédiaire qui pourraient être détectés par les noyaux actifs, mais on n'en est pas encore très sûr. Alors, il y a aussi les sources ultralumineuses X, qu'on a pensé peut-être être des trous noirs intermédiaires, et qui finalement, on est un petit peu déçus, puisqu'on s'est aperçu qu'ils avaient une période bien fixe, et que c'était finalement des pulsars, des étoiles à neutrons. Alors, pourquoi ils étaient aussi lumineux? Eh bien, on pense que c'est simplement que leur luminosité était dans un lobe, en fait, bien précis, et n'était pas isotrope. Donc, on s'était un peu trompé sur la luminosité totale. Donc, on a peut-être un candidat ici pour un trou noir de masse intermédiaire qui serait formé donc par fusion successive de trous noirs dans un amas globulaire. Donc ça, ce serait donc là, je n'ai peut-être pas le temps de vous donner tous les mécanismes de formation des trous noirs de masse intermédiaire, mais qui peuvent être des étoiles supermassives de population 3, des étoiles jeunes qui sont pas beaucoup de métaux. Ou alors, dans les amas globulaires, on s'attend à trouver une implosion du cœur qui formerait un trou noir de masse intermédiaire au centre. On a cherché beaucoup dans les amas globulaires et on n'en a pas trouvé. Il y en a ici, on a trouvé qu'il y avait une masse qui était noire au centre, mais qui était en fait une succession de petits trous noirs de masse stellaire, donc ça ne marche pas. Donc ça, c'est encore une recherche. Et il y a encore un problème aussi que je n'ai pas le temps de traiter aujourd'hui, mais là, il y a un fossé entre la masse des étoiles à neutrons et la masse des trous noirs. On n'a pas encore comblé ce fossé. C'est peut-être quelque chose à creuser aussi. Ok, donc je n'ai pas été très regardant dans le temps aujourd'hui, mais on s'attend à trouver des fusions de trous noirs et étoiles à neutrons. On n'en a que deux ou trois aujourd'hui, on n'a pas suffisamment. Et on aimerait connaître ces trous noirs donc binaires. Donc je résume. Donc on a maintenant fait quand même pas mal de progrès dans les supernovae. On sait comment elles explosent. Dans l'ordinateur, on a vu le modèle. On sait la courbe de lumière l'interpréter avec les éléments radioactifs. On sait qu'il peut y avoir des vitesses du cœur. Et les trous noirs, on a beaucoup d'informations avec les trous noirs binaires. Et on sait à quelle orbite le disque d'accrétion permet des orbites en fonction de la rotation du trou noir, donc on peut-être connaître la rotation de ce trou noir en ayant ces variations. Et on a aujourd'hui des contraintes observationnelles avec les sursauts gamma et les ondes gravitationnelles. Voilà, je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.